Ouverture. Je regarde s'ils sont présents, et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Nous serons observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé, humilié, déshumanisé.
200 000 francs la télé.
Un matin.
Dans les cours de promenade.
Donc vous êtes sur le 89.5 sur Radio Audio, vous écoutez l'émission Papillon, comme tous les premiers dimanches du mois, à la même heure. Donc Papillon, c'est l'émission qui traite des prisons et du monde qui l'entoure. Donc voilà, dans les studios aujourd'hui, on a une petite équipe un peu réduite. Donc il y a Elsa.
Bonsoir.
Il y a Soso.
Salut.
Et il y a moi-même, Payoup, qui vous salue.
Un grand bonjour à ceux et celles qui n'ont pas pu venir.
Oui, tout à fait.
Ouais, les bisous.
On les salue bien. Donc voilà, alors on rappelle un peu que en gros Papillon a pour vocation, entre autres, d'être un outil d'expression pour les détenus, les prisonnières et les prisonniers, et puis pour toutes les personnes concernées, de près ou de loin, par la prison et le monde carcéral. Donc voilà, donc pour ça, n'hésitez pas surtout à nous écrire. Donc vous pouvez nous écrire à Émission Papillon chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42 022 Saint-Étienne. On répétera l'adresse à la fin de toute façon. Donc voilà, alors au sommaire de cette émission, on a en gros deux grosses parties. Une première partie brève, comme d'habitude. Et la seconde partie de cette émission, en fait, ce sera une interview du journal et de l'émission de radio L'Envolée sur Paris, dont on vous parle souvent. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par les brèves. Voilà, donc je te laisse la parole.
Ouais, donc en fait, moi je vais revenir sur ce qui m'est un peu arrivé jeudi dernier en allant voir un pote au parloir, en fait, à la Talo. Et donc, moi je me suis pointée, donc j'ai pris mon rendez-vous pour un parloir. Et en fait, j'ai pas eu parloir parce que j'ai pris mon parloir à la borne automatique et ça n'a pas fonctionné. Donc, mon parloir n'a pas été enregistré. Donc, voilà, ça a fait... le copain, il a droit à 3 parloirs par semaine et il en a eu que 2. Donc, voilà. Et donc, en fait, ces histoires de parloirs qui foirent, c'est pas du tout... moi, pour ma part, c'est pas du tout un cas isolé parce que ça arrive souvent. Et la prise de parloir, en fait, c'est un problème qui est inhérent, en fait, à toutes les tôles, et notamment à Saint-Étienne, à la Talaudière, qui n'est pas du tout exempt, en fait, de problèmes. Et c'est souvent que des proches de détenus se voient, ils ont pris un parloir et ça marche pas, et voilà. Et donc, il y a vraiment des problèmes par rapport à ça. Alors, comment ça se passe, en fait, à Saint-Étienne, par exemple, pour la prise de parloir, à la Talo? C'est, on a deux manières. Il y a le téléphone, donc le rendez-vous, il se prend par téléphone. Et alors là, contrairement à ce que peut dire l'administration pénitentiaire, c'est qu'elle dit qu'il n'y a pas de problème pour la prise des parloirs. Elle dit vous pouvez appeler par téléphone, sauf que quand on appelle par téléphone, souvent ça sonne occupé. Non, ça répond même pas, en fait. C'est qu'il faut se...
En fait, soit c'est occupé tout le temps, soit ça répond pas. Voilà. C'est le genre de plan, à 8h du mat, tu t'y mets et t'appelles, et peut-être au bout d'une demi-heure, il y a quelqu'un qui va te répondre.
Ouais.
Et c'est l'angoisse. Et les gens qui bossent ou qui ont un téléphone où il n'y a pas la touche bis ou des trucs comme ça, c'est impossible, quoi.
Ouais. Donc c'est une vraie logistique. Et l'autre manière de prendre un parloir, bah, c'est la borne automatique qui se situe donc dans deux endroits, qui est à la maison d'accueil des familles et à l'intérieur, dans la petite salle, juste avant que les personnes montent au parloir, en fait. Et en fait, cette borne automatique, donc, vu que c'est automatisé, vu que c'est électronique, l'électronique, hein, c'est pas ça foire, hein, voilà. Et en fait, par exemple, cette machine, à la base, elle distribue en fait des petits tickets pour confirmer cette prise de parloir. Sauf que maintenant, il n'y a plus de petits tickets. En fait, ça n'a jamais été réalimenté, ça a toujours été laissé en fait. Voilà, il y a eu des tickets une période, et après ça, il n'y a plus de tickets.
Ça fait quoi? Ça fait 6 mois?
Ouais.
Je crois que ça fait au moins 6 mois qu'il n'y a plus de tickets, et que régulièrement des gens réclament, et qu'ils s'entendent répondre par des surveillants. Bah, il n'y a plus de papier, hein.
Il n'y a plus de papier, ou moi, c'est vrai qu'on m'a sorti une autre excuse encore, c'est la photo. Enfin, des personnes de mauvaises intentions, toujours de mauvaise foi, qui prennent des parloirs, qui l'annulent et qui reviennent avec leurs tickets. Du coup, c'est pour essayer de contrecarrer les gens de mauvaise foi, parce qu'il y a toujours des gens que de mauvaise foi qui vont voir des personnes incarcérées. Et du coup, alors qu'à l'accueil des familles, ils vont dire, ouais, bah, eux, ils nous disent que c'est un problème informatique, qu'ils peuvent pas avoir de papier. Enfin, bref, c'est des histoires pas possibles. Chacun se renvoie la faute. Enfin, bref. Et du coup, donc, par rapport à ça, l'administration pénitentiaire, quand on se retrouve face à des situations comme ça, il faut surtout pas se laisser faire, en fait, parce que c'est pas de notre faute, et c'est l'administration pénitentiaire, c'est ce qu'elle essaie de dire, en fait. Vous avez du mal à vous servir de la machine, votre carte marche pas, enfin, c'est toujours dans le vous. Sauf que non, c'est leur système qui marche pas, en fait. Et système, il est d'une machine à l'humain, enfin, après, ils font pas les efforts, ils auraient pu me faire rentrer, ils ont pas du tout fait l'effort, et tout ça pour leurs petits arguments sur le sécuritaire, etc. Et du coup, donc en fait, ce qui serait bien, c'est de réfléchir à quel type de solution on peut essayer d'entrevoir à ce genre de truc. Donc moi, je me suis retrouvée toute seule là à protester devant la Talo, comme quoi je voulais mon parloir, machin, me retrouver seule, en fait. Et vu que ça se passe avec plein de gens, ça serait déjà essayer d'essayer de se rencontrer, en fait. Donc s'il y a des personnes qui sont confrontées à ça, il faut vraiment qu'elles le disent à l'accueil des familles. Par exemple, déjà qu'elles essaient de faire remonter le truc, vraiment qu'elles lâchent rien, qu'elles disent, et qu'elles essaient aussi de se mettre en lien. Donc ça, c'est toujours ce qui est difficile, en fait. Parce que voilà, il y a un peu des fois l'appréhension de parler à l'autre et tout. Mais bon, en tout cas, il faut vraiment pas rester seul. Et il faut vraiment faire part de son mécontentement, et notamment sur cette histoire de tickets, parce que c'est pas normal, en fait. Ils mettent un outil à disposition qui est complètement critiquable, mais en attendant, dans cet outil, il y a des tickets inclus, et sauf que ça fait 6 mois, par fainéantise et par mauvaise foi, qu'ils mettent pas de tickets, et que du coup, tu te pointes au parloir et que t'as pas de... Tu te retrouves comme un con devant la porte à essayer de voir le directeur. Voilà,
quand t'oses.
Et quand t'oses, en plus. Ouais.
Parce que... Moi, ce que j'aimerais vraiment rajouter, c'est que un parloir, c'est un moment super important pour le prisonnier comme pour la personne qui vient le voir. Et quand tu te retrouves à la porte, alors il y a ces histoires de rendez-vous qui ont été mal pris ou quoi, qui n'ont pas marché. Il y a plein d'autres excuses pour pas te laisser rentrer, quoi. Il y a pour une carte d'identité oubliée, alors qu'ils connaissent par cœur ta tronche, ils savent très bien qui t'es, ils vont pas te laisser rentrer. Parfois, pour 2 minutes de retard, tu rentres pas. On a vu l'autre fois à Corba, un gars, il savait pas qu'il pouvait pas rentrer avec sa montre. Ils l'ont jarté.
Alors qu'ils l'ont vu. Ils ont vu qu'il était là.
Etc, etc, quoi. Et c'est vraiment super dur. Et en plus, ce qu'il faut rajouter, c'est que le prisonnier ou la prisonnière est souvent pas prévenu. Il attend comme un con. Et personne lui dit. Et lui, il se dit, quoi, mon pote, il m'a fait un sale plan. Ma chérie, elle m'oublie. Enfin, c'est super dur, quoi. Voilà, je voulais ajouter ça. Et le truc, c'est que nous, on s'était dit, faut écrire une lettre et dire, oh, y en a marre. Au moins, remettez les tickets, faites en sorte que ça fonctionne, mettez-y un peu de bonne volonté. Donc, on s'est dit qu'on ferait ça. Et c'est vrai, comme disait Soso, d'une manière ou d'une autre, arriver à soutenir les uns les autres, c'est quand même mieux.
Et puis aussi, il y a toujours des associations limitées, soit-elles aussi dans le pouvoir qu'elles ont et le poids qu'elles ont, mais à contacter pour pas rester seules, justement, l'ARPI dont on a souvent parlé, etc., qui est une association pour le respect des proches de personnes incarcérées. Donc voilà, enfin, pas rester seule, et c'est vraiment de avoir des tickets pour une petite lutte à la con, mais qui est quand même bien utile pour pas bousiller ces moments possibles avec la personne enfermée.
Voilà.
Voilà, donc on va enchaîner maintenant avec la deuxième brève, qui est un peu une sorte de une mise en perspective, on va dire, de deux événements qui ont lieu récemment. Un dont on a beaucoup parlé, qui était la prise d'otage à la prison de Ensisheim, et un autre dont on a moins parlé, qui est le mouvement qui a eu lieu récemment à la prison de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère.
Ouais, donc voilà, en fait, la prise d'otage d'Ensisheim, donc je resitue, c'était deux détenus qui ont pris en otage un surveillant, en fait. Et à Saint-Quentin-Fallavier, donc, enfin, comme l'a dit Payoub, c'est une protestation de prisonniers, voilà. Et ça s'est passé vraiment. Enfin, Saint-Quentin-Fallavier, c'est à côté de chez nous. C'était le 10 janvier, et juste avant ça, Ensisheim, c'était le 5 janvier. Donc voilà. Et le but, en fait, sur ces deux événements, donc c'est ce que je vais vous expliquer après, c'est d'essayer de proposer, en fait, une autre lecture, parce qu'en fait. Ça s'est présenté, enfin, notamment la prise d'otage d'Ensisheim, elle a vraiment été présentée dans la presse comme un fait divers complètement banal, alors que ça pose vraiment...
Et brutal,
surtout, ouais. Et que ça pose vraiment d'autres questions, en fait. Donc, je vais revenir un peu plus dans le détail. Donc, sur Ensisheim, donc, c'est vrai qu'on a été lourdement informés donc, par tous les médias, quoi. Tout le monde s'y est mis sur le même scénario. Et donc, c'était bien le scénario bien rodé qu'on connaît par cœur, quoi. Donc, c'est des détenus dangereux, armés de fourchettes et de lames de rasoir, qui prennent en otage un gardien de prison, bon père de famille. Et après, donc, on a les pleurs des syndicats de matons qui réclament plus de moyens pour faire face à des détenus toujours plus dangereux. Donc, voilà, ça, c'était le bon scénario. Et là, nous, juste la réflexion qu'on peut se faire, c'est est-ce qu'à un seul moment, on a entendu, en fait... les revendications, la parole des prisonniers, des prisonniers preneurs d'otages, hein, des prisonniers longue peine notamment. On a souvent évoqué la situation des longues peines dans les précédentes émissions. Est-ce qu'on a entendu leurs paroles? Est-ce que vous savez, enfin, pourquoi, c'était quoi leurs revendications? Il n'y a pas eu écho, en fait. Pour Saint-Quentin-Fallavier, donc là, par contre, on a été un peu moins informés. Hein, on a très peu entendu, il n'y a que des associations telles que l'OIP ou Banque Publique pour s'y intéresser. Et là, donc, le scénario, pour le coup, était peut-être un peu plus gênant à relayer. Donc là, c'est une cinquantaine de prisonniers qui ont fait un mouvement de protestation que l'administration pénitentiaire a reconnu comme pacifique. Donc, ils ont refusé de réintégrer leurs cellules à l'issue d'une promenade pour dénoncer les dysfonctionnements de la cantine. Donc, la cantine, hein, c'est l'approvisionnement des détenus. C'est le système d'approvisionnement des détenus, en fait, puisque, en fait, dans une prison, il n'est pas possible de vivre uniquement avec ce que donne la paix, en fait. Et pour protester aussi contre le nombre assez faible d'activités. Et ça, en fait, cette protestation, c'est pas sans nous rappeler celle de Corba, dont on a aussi parlé dans les dernières émissions, qui s'est passée en décembre, voilà, qui reposait un peu sur les mêmes revendications. Et ça, c'est quand même des revendications qui sont quand même pas énormes, quoi. Une cantine, une meilleure cantine et plus d'activités, enfin bref. Donc c'est un mouvement collectif, et ce mouvement collectif s'est fait réprimer par l'administration pénitentiaire. Donc il y a eu 3 personnes qui se sont vues confinées dans leur cellule, et une autre, donc qui était, il fallait trouver un meneur, et une autre donc qui était désignée comme le meneur, et qui a été transférée illico presto à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Donc voilà. Et ce mouvement de protestation, on n'en a pas vraiment entendu parler, contrairement à la prise d'otage. Pareil, là, les motivations, on les connaît, et elles sont relayées par des associations qui touchent quand même un nombre assez limité de personnes, qui ne touchent pas un large public, l'audience de 20 heures, par exemple, quoi. Et en fait, nous, ce qu'on tient à dire, c'est qu'on veut remettre ces deux événements, en fait, sur le même tableau, et que ça soit une prise d'otage ou un mouvement de protestation, en fait, il y a quand même un fond commun. C'est la volonté d'être entendu par rapport à sa condition d'enfermé, en se réappropriant une liberté d'action, avec les moyens qu'on a, quoi. Si c'est une prise d'otage, c'est une prise d'otage, et qui permet de dire ce qu'on vit, quoi, en prison, parce que quelqu'un qui n'est pas enfin, la prison, enfin, essayez même de vous enfermer, par exemple, ne serait-ce une journée dans votre cuisine, sans sortir, enfin, est-ce que, comment vous serez à la fin de la journée? Est-ce que vous serez pas agressif? Et avec tout le système répressif qu'il y a autour, enfin, voilà. Et donc, du coup, bah, des prisonniers se réapproprient des moyens d'action. Et que, du coup, bah, ces moyens d'action aussi, bah, ça pose un, en fait, c'est, au-delà du simple fait divers, en fait, c'est réellement la question bah, du système carcéral qui est posé, en fait. Le débat, un débat de fond sur qu'est-ce que c'est réellement la prison, le système qu'elle comporte, etc., qu'est-ce qu'il a créé, enfin, c'est vraiment tout ça. Et d'autant plus que dans les médias, ce qui a été dit, c'est qu'en fait, enfin, ce qu'on a surtout vu, c'est qu'il y a aussi une espèce de proportionnalité en fait dans la violence qui est présentée. On nous parle de détenus dangereux, etc., enfin peu importe, mais c'est surtout en fait qu'en face il faut pas se leurrer, enfin eux ils ont des les détenus preneurs d'otages, ils avaient des rasoirs et des fourchettes, alors bien sûr ça fait sanglant et tout, ça fait barbare, mais en face qui a qui il y a le GIGN hein, qui est quand même sacrément armé, et il y a les ERIS, et les ERIS, donc c'est, on ne cessera de le répéter, c'est les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Et c'est des ces super Robocop encagoulés qui ont été dénoncés d'ailleurs par
la Commission européenne des droits de l'homme, je crois, hein, ouais, dès le départ, les ont
dès sa création en fait, avant même qu'ils soient créés, ils ont dit attention, c'est un bon moyen que ce soit du bon n'importe quoi, et c'est du bon n'importe quoi. D'ailleurs.
Ouais, voilà. Et que bah eux, les ERIS, ils sont là pour taper, ils sont avec des fusils, enfin. Enfin là, la barbarie, elle est peut-être légitime et propre, mais voilà. Enfin les et du coup, on a l'impression que même là, on n'est encore pas égaux en fait. C'est enfin c'est assez hallucinant. Et que bah prendre quelqu'un en otage, bah, notamment un surveillant, enfin c'est quand même pas dénué, enfin de tout, enfin des détenus qui font ça, c'est quand même un acte super raisonné, enfin comme une évasion, c'est quelque chose d'hyper organisé, etc. Parce que dans le sens où prendre quelqu'un en otage, ça rajoute à la longueur de la peine pour un détenu. Hein. Derrière, il y a des conséquences pénales, etc. Et que aussi cet acte, eh ben, ça va alimenter en fait le fichage du détenu, et ça va rajouter en fait à comment ça va, enfin ça va orienter encore plus de manière répressive les conditions de détention par la suite en fait, quoi. Donc voilà. Et du coup, à l'heure des slogans, en fait, où on dit, on parle de la prison qui change, le détenu citoyen, etc., en fait, ce qui s'est passé à Ensisheim et ce qui s'est passé à côté d'ici, à Saint-Quentin-Fallavier, ou encore ce qu'on disait tout à l'heure à Corba, en fait, montre vraiment qu'on entend rarement la voix des prisonniers et des prisonnières, et qui est largement encadrée, et c'est ce que relaient les médias, en fait, par les services de communication de la pénitentiaire, en fait, et soit de la prison elle-même, ou soit au niveau régional, ou même par des experts, les syndicats de matons, etc. Et jamais, et là, on ne peut pas dire le contraire, jamais on entend la parole des principaux intéressés, à savoir, par exemple, bah, les proches de ces preneurs d'otages. Enfin, ils sont où? Ils n'existent pas enfin, peut-être qu'ils n'en ont pas, mais même les preneurs d'otages, on ne les entend pas. Et donc, ça sert vraiment, là, à isoler les individus, ça, on le voit, quoi. Enfin, les familles, là encore, elles sont isolées, c'est comme pour les parloirs, quoi. On cherche vraiment à isoler les gens. Et du coup, je terminerai sur ça. Sur par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Quentin-Fallavier, l'administration pénitentiaire, en fait, elle a reconnu que c'était elle a dit que c'est un mouvement de protestation pacifique, mais qui était collectif. Et là, le collectif, ça pose problème. Ils veulent, en fait, le ministère de la Justice, tout, enfin, la paix, ils souhaitent vraiment que les revendications, elles se fassent de manière individuelle, donc pour que les gens soient moins forts, en fait. Et avec des méthodes, ils disent qu'il va y avoir des outils à partir de 2010 avec des systèmes de recommandés, etc., machin, pour faire des réclamations. Et c'est pareil, par exemple, à Corba pour les proches, où il y a une boîte aux lettres, où là, on dit aux proches, bah, si vous avez une réclamation, mettez bien votre petit papier dans la boîte aux lettres et on consultera, voilà. Et ça, c'est complètement illusoire, quoi, c'est de la poudre aux yeux, enfin... C'est comme, je sais pas, vous avez des, vous bossez par exemple, vous allez vous faire licencier, est-ce que vous allez protester individuellement, collectivement? Donc en fait, là, on essaie de nous faire croire qu'individuellement on est plus fort que collectivement. Donc vraiment, la logique, c'est vraiment d'isoler des gens et par des saints, et faire passer toutes ces, tous ces actes de résistance, en fait, pour vraiment des actes barbares, barbares et sans réflexion de fond derrière, alors que ça pose un débat sur la prison.
Ouais, et le truc, en fait, c'est que tu parlais du traitement médiatique, c'est toujours le même, c'est, enfin, tu l'as bien souligné, c'est de la folie. Genre, tout ce qu'on entend, il se passe n'importe quoi, un pet de travers en tôle, et bah, t'as une citation du syndicat des matons qui disent on est en sous-effectif, on va être plus nombreux. C'est genre le problème, la solution à tout, c'est d'avoir plus de matons. Et donc maintenant, de pouvoir envoyer des lettres en recommandé. Bon, bref. Mais, et comme tu disais, de dehors, on n'entend pas ce qui se passe, on n'entend jamais ce que les gens qui vivent à l'intérieur ont à dire, et surtout quand ils se mobilisent. Et donc, je voulais en profiter pour rappeler que nous, on est vraiment là pour ça, et d'autres émissions de radio et d'autres collectifs. Et quand il se passe des mouvements de protestation à l'intérieur, quels qu'ils soient, c'est vraiment bien de le faire sortir, de l'envoyer à l'émission Papillon ou à d'autres, pour que au moins, bah, nous, on est un peu là pour ça, quoi, pour le relayer. Nous, on fait ce qu'on a à faire dehors, mais si on peut relayer des choses qui viennent de l'intérieur, ben, et même s'il faut se déplacer devant une tôle pour soutenir ce qui est en train de se passer dedans, j'espère qu'on sera là pour le faire. Quoi.
En tout cas, ça fait quand même plaisir qu'à peu de temps d'intervalle, à Corbeil, à Saint-Quentin-Fallavier, il y a eu des mouvements collectifs, même comme tu disais, mais c'est pour des trucs assez bénins. Quoi. Je veux dire, le truc, il y a quand même des gens, des détenus qui sont organisés, qui sont passés à travers les mailles, qui ont réussi à s'organiser collectivement pour faire remonter un truc. Quoi.
Et à Corba, la répression, elle a bien été effective. Hein. Il y a des témoignages, les ERIS, ils passaient, donc ces fameuses équipes de Robocop, et ils choisissaient une cellule au hasard et ils tabassaient les gens qui étaient dedans. Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et ça, c'est des proches qui allaient au parloir qui nous l'ont dit. Mmh. Et leur parole est fiable.
Ouais.
Voilà, donc il faut faire sortir les infos et il faut aller soutenir les gens qui se bougent. Et, donc, et ça va me permettre de faire une super transition. Mais avant ça, est-ce que tu peux envoyer les sons de la manif de la semaine dernière? Et après, je vous explique ce que c'est.
Allez,
écoutez bien.
Voilà, donc là ce qu'on vient d'entendre c'est quelques petits extraits donc des extraits sonores d'une manif qui a eu lieu samedi dernier, donc le 30 janvier, devant le centre de détention de Roanne, où en fait il y a une prisonnière politique basque qui s'appelle Lorencha Guimón, je sais pas du tout si je le prononce bien.
Guimón, je crois, Guimón. C'est pas grave.
Bref, qui est en grève de la faim en fait depuis le 2 janvier. Elle s'est lancée en grève de la faim illimitée, donc bref, c'est très dur. Et elle en était, donc 2 janvier, à 27 jours ce jour-là. Et en fait, il y avait sa maman qui venait la voir au parloir, et il y avait un bus de 40-50 personnes qui montaient du Pays Basque pour la soutenir et pour manifester devant la prison en solidarité avec sa lutte de l'intérieur. Donc là, j'en parle très vite, mais c'était vraiment fort. Moi je vais avoir l'air con mais je n'ai jamais rien compris à la lutte basque et voilà, mais c'était là, moi ce que j'ai trouvé vraiment fort, c'est 40 personnes plus des gens de la région en plus qui sont venus en soutien pour soutenir une prisonnière en lutte, et voilà, c'était chouette. Donc aujourd'hui on n'a pas le temps de beaucoup plus en parler,
Mais dans la prochaine émission, donc premier dimanche de mars, on passera des interviews de personnes qui étaient à l'initiative de la manif et on en parlera mieux. Mais voilà, en gros, juste pour dire, elle est en grève de la faim parce qu'elle a pris une peine de 17 ans pour appartenance à l'appareil logistique de l'ETA. Et en fait, là, récemment, ses conditions de détention se sont vachement durcies dans le sens où on lui a enlevé des permis de visite. On l'a éloignée très, très loin de sa famille, de tous ses proches. Avant, elle pouvait voir son compagnon. Elle ne peut plus le voir. En compagnie, d'ailleurs, de sa fille. Donc, elle peut plus.
Ils étaient dans la même prison, en fait.
Voilà. Donc, et en plus, au début, elle a lancé des revendications et l'administration n'a pas du tout voulu l'entendre. La directrice de Roanne n'a pas voulu du tout lui parler, ni parler au comité de soutien. Donc, elle, c'était la seule solution qu'elle a trouvée, c'était de se mettre en grève de la faim illimitée. Voilà. Donc, il est possible de lui écrire. Je dis son adresse. Ouais, allez, je dis son adresse, on la redira à la fin. C'est Lorencha Guimon, ou Guimon, je ne sais pas. Donc, Lorencha, ça s'écrit L-O-R-E-N-T-X-A. Et Guimon, c'est G-U-I-M-O-N. Elle est au centre de détention, donc écrou numéro 488F. Rue Georges Mandel, BP 10008, 42 311, Roanne Sedex. On le répétera à la fin. C'est pas mal de la soutenir. Et voilà. Et même si vous trouvez leur adresse, vous pouvez écrire à la garde des Sceaux et à la directrice du centre de détention de Roanne pour protester. Et donc, bref, on vous en donnera des nouvelles la prochaine fois.
Un petit morceau ?
Ouais, on va passer un petit morceau. Donc, c'est le choix de Marc qui n'est pas là.
Qui voilà. Marche dans le Vercors.
Voilà. Et c'est Passy.
Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice. Le pays est en fête. Pour moi, la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, parle. Ton nom est sur le tas, j'ai fait si pas. Dans l'enfer des galères, la poisse, les empreintes, les plaintes. Et ce tribunal, ma famille et mes proches en soutien principal. Pimpon, pimpon. Les flics éclatent, roulent à fond. Bon, mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49-203. J'entre en cellule, des 128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin 49-204 me parle de date, me mate, enchaîne sur les business et rate. Le trouble est dans ma tête et le maton. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent et le maton. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête et le maton.
Première nuit, matelas pourri, lit superposé. Carreaux cassés, des rapaces sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale. Gaulle, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos. Passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, 2 de grillage et un de barbelé. 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe. J'étouffe dans goulag, la cellule ne stalague. Les jours se répètent
et le maton.
Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent
et le maton.
Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête
et le maton.
Il suffit d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlant dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de paupières contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule, un camé prend un cachet à chaque gamelle. Nouvelle, un suicidé évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin, pactage, libéra pour 49-203.
Ah, pas si t'es sorti.
ça faisait des mois. J'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeu et négro. Et le B de bleu sonne avec le B de baron. Je dois signer, dire présent une fois par semaine, que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas, pas moi, moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire, bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le mat on nous guette. Mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent et le maton de mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête et le maton te guette. J'ai pas ta voix, encore moins la vision, mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion. Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion. Et le maton te corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison, à tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de hargne, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés. Bois d'Arcy, Oni, Fresnes, Fleury, Santé, Nanterre, les Baumettes et les autres zonzons. Parloir, courrier, tourné, c'est la mer, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette.
Oui. Quand le maton te guette.
Donc vous êtes toujours sur le 895 de Radio Audio, à l'écoute de l'émission Papillon. Donc là maintenant, on va passer à l'interview qu'on a fait de L'Envolé, qui est un journal parisien, une émission de radio. C'est un journal critique du système carcéral et judiciaire et du monde qu'il génère, etc. Donc je vais pas en dire beaucoup plus parce qu'ils le font eux-mêmes dans l'interview. Donc juste voilà, relayer une petite phrase qui disent dans leur édito à chaque jour, enfin dans chaque journal en fait, où ils disent nous ne sommes pas le porte-parole de ceux que la prison relègue au rang de muets sociaux. Les prisonniers écrivent, réfléchissent, résistent, etc. Nous ne voulons pas penser et nous battre à leur place, mais avec eux. Donc voilà, ça résume bien leur position, qui vont un peu plus détailler dans l'interview que je vais lancer tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve à la fin de cette petite interview.
Alors on est le dimanche 20 décembre, on est en compagnie de deux animateurs du journal et de l'émission L'Envolé. Alors on parle régulièrement de L'Envolé à l'antenne de Papillon. Et puis bah, aujourd'hui on a voulu en profiter pour faire une petite interview, pour expliquer un peu ce que c'est, etc. Donc Olivier et Steph.
Salut.
Salut.
Est-ce que vous pouvez présenter L'Envolé, le journal et l'émission, voilà, dire un peu comment ça a commencé, pourquoi, comment vous fonctionnez, etc.
A commencé en 2001, c'était une rencontre qui était plus vieille d'une année, on va dire, entre Afed et moi, et juste après Francine, qui était tous les trois, on sortait de prison pour des temps qui n'étaient pas du tout les mêmes, hein. Moi, c'était un an, Francine, c'était 7 ou 8 ans, et Afed, c'était encore une plus longue peine. Mais voilà, mais on s'était retrouvés, on avait compris qu'on existait depuis l'intérieur par des biais divers, bibliothèques, des écrits qui avaient été laissés, des choses comme ça, et on avait envie de se rencontrer à l'extérieur, on s'était jamais vu. Et donc, il y avait à ce moment-là, Fréquence Paris Pluriel n'émettait plus, à cause de la tempête qu'il y avait eu en 99, et personne n'avait eu l'envie de reprendre l'émission anticarcérale de Paris Pluriel, qui jusque-là s'appelait Parloir Libre. Donc il y avait un creux là de ce côté-là. Il n'y avait plus donc à Paris comme émission anticarcérale que Ras les Murs sur Radio Libertaire. Donc on est allé à Radio Libertaire avec AFED, on a animé l'émission avec d'autres pendant une année, et à la fin d'une année, on a préféré de part et d'autre, a fait des mois sans partir, et puis elle est demandé à Fréquence Paris Pluriel si on pouvait récupérer le vieux créneau horaire de Parloir Libre pour y faire une nouvelle émission qui s'appellerait L'Envolée. Et là donc, comme ça on a rencontré Nadia, et tous les quatre, on a démarré cette émission. Avec très très rapidement un bon groupe de personnes qui étaient là aussi, à la fois pour la technique et à la fois pour la réflexion, etc. La radio, c'est comme Saint-Étienne, elle émet que sur un rayon relativement limité autour de Paris, 50 km. Alors évidemment, à Paris, ça représente beaucoup de prisonniers, hein, puisque ça fait il y a au moins 5 maisons d'arrêt, une centrale qui nous reçoivent, et ça fait en proportion, je sais pas moi, peut-être le tiers des prisonniers et prisonnières en France. Donc il y a un large auditoire et qui était habitué, les habitudes n'étaient pas encore complètement perdues, donc à ce créneau horaire du vendredi soir de 19h à 20h30 où ils savaient qu'ils pouvaient essayer d'écouter. Et donc la machine n'a pas été longue à redémarrer du tout, et on a reçu très très rapidement énormément de courriers, énormément de contacts avec l'intérieur, profitant des connaissances qu'on avait, puisque le fait de sortir de prison, ça veut dire que tu as gardé en même temps beaucoup de contacts très 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 encore tout frais à la mémoire, avec les gens qui continuent à rester enfermés, et puis donc cette habitude de parloir libre. Donc cette somme de courriers là, on a très rapidement, au bout d'un mois ou deux, on s'est dit c'est quand même dommage que ça dépasse pas le cadre parisien ou région parisienne. D'autant plus que la plupart des personnes qui nous écrivaient, qui étaient au début, d'ailleurs ça reste un peu comme ça, hein, au début surtout des longues peines, se voyaient, et des longues peines qui se battaient, parce que les gens ils écrivaient pas pour, en règle générale, pour nous envoyer des poèmes ou des chansons ou des dessins, mais plus pour écrire des textes d'analyse, de bagarre, etc. Et donc ces gens-là sont d'autant plus transférables et transférés, et ils ont souvent quitté la région parisienne, donc il n'y avait plus de contact avec eux. Donc on s'est dit, la seule solution, c'est de faire un journal pour dépasser tout ça. Et quelques mois après, donc, on a décidé de mettre sur pied le journal L'Envolée, avec donc ce groupe de gens dont je parlais tout à l'heure, là, donc ça représentait environ une quinzaine de personnes, pour faire ça. Au début, on le voyait mensuel, le journal. Mais comme on fait toujours tout, le premier numéro, on l'a commencé au début du mois de, je me rappelle, c'était en 2001, en juin 2001. On l'a commencé début juin et on l'a terminé fin juin, ce qui fait que le lendemain de la distribution, il fallait déjà imaginer recommencer le deuxième. Donc, c'était pas possible. Il est passé trimestriel assez rapidement. Voilà. Et puis la radio, elle a continué, hein. L'équipe s'est modifiée au fur et à mesure. Elle est plus la même aujourd'hui. Enfin, il y a des gens qui restent là, mais sinon beaucoup ont changé. Et pour le d'une part et pour le journal, un petit peu la même chose. L'équipe s'est aussi modifiée, mais ça n'a pas empêché donc de prendre quand même une assise. Hein. On peut dire qu'aujourd'hui, au bout de 8 ans, ça fait 8 ans d'existence pour le journal. Plus que 8 ans. Donc, ça commence à être connu. Du coup, maintenant, c'est beaucoup moins difficile. On est sûr de diffuser quand même un assez large nombre d'exemplaires pour le journal. Et puis, on est sûr de l'audimat, hein. Enfin, voilà, du nombre de personnes qui écoutent depuis l'intérieur et aussi depuis l'extérieur, la radio. Voilà, grosso modo. Si, en précisant une chose, c'est que depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, évidemment, il y a eu un refus choisi, délibéré, d'accepter n'importe quelle aide qui viendrait de l'État ou d'organisations syndicales ou quoi ou qu'est-ce. Les seules aides qu'on ait pu accepter, c'est des aides de solidarité, soit d'anciens prisonniers qui sortaient, c'est arrivé, qui sont venus à l'émission et qui ont laissé un petit peu d'argent en disant maintenant je suis dehors, c'est pour que vous puissiez continuer à assurer tout ça. Soit par les abonnements, soit par l'argent de nos propres poches. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'on a une autonomie complète. On doit rien à personne et personne peut nous empêcher de faire quoi que ce soit, quoi. On choisit et on fait comme on veut. Voilà.
Pour continuer sur ce lien avec les personnes incarcérées, est-ce qu'il dure dans le temps? Est-ce qu'il y a une évolution depuis le début?
Il y a forcément des évolutions, puisque d'abord il y a des gens qui, heureusement, sont libérés. Et sauf exception, il y en a eu. Sinon, les prisonniers ou prisonnières, on ne peut pas dire qu'il y ait une arrivée, tu sais, au moment d'une sortie, de quelqu'un qui vienne, qui dit tiens, je vais participer de façon active au journal ou à la radio. Il y a des gens qui l'ont fait ponctuellement, je m'en rappelle, comme des gens comme Alain Solé, un Breton qui avait réussi à sortir pour raison médicale, qui est venu, qui a fait un numéro de journal avec nous. Mmh. Une jeune fille qui s'appelait Audrey, qui s'appelle toujours Audrey d'ailleurs, et qui a écrit beaucoup, beaucoup dans les premiers numéros, qui a fini par sortir, et tant mieux pour elle aussi. Et elle aussi, elle nous a rejoint à la radio, elle y est restée une bonne année, et après elle est partie pour faire d'autres choses. Voilà. Mmh. Donc de ce côté-là, les liens, il y a toujours des liens de sympathie, on a toujours des nouvelles. Hein. Par exemple, je pense à quelqu'un comme Nino Merlini, qui est un long peine, vraiment un vieux long peine, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Lui, il n'y a pas tous les 15 jours, il téléphone pour prendre de nos nouvelles, pour en donner, pour continuer à dire à ceux qui connaissent qui sont enfermés. Des coucous, des bonjours, dire qu'il ne les oublie pas, etc. Donc il y a ce lien-là qui demeure. Mais il y a comme ça, par tranche, hein, si on peut dire c'est par tranche, il y a toujours eu des prisonniers ou des prisonnières qui ont écrit, tac, et après qui ont arrêté. Là maintenant, il y a toujours des fidèles, mais ces fidèles-là, ils bougent. Et là, je ne sais pas, ça fait, on va dire, Stéphane, ça fait quoi, 2 bonnes années qu'on a nos fidèles
qui écrivent, et puis à la radio, il y a aussi un long peine qui est sorti et qui est régulièrement à la radio, qui participe à l'émission, quoi. Hugo.
Oui, c'est vrai.
Donc il y a Hugo qui est là, qui a été absent pendant un moment pour des raisons personnelles et médicales, mais sinon, en fait, il est présent toutes les semaines. Et puis au niveau des courriers, c'est vrai qu'il y a un petit noyau de personnes dont on a régulièrement des nouvelles. Et quand pendant un mois, il n'y a pas de nouvelles, on s'en inquiète. Et puis ça crée c'est une régularité qui crée un lien.
Un
rapport plus direct.
En nombre, on va dire en volume de courrier, ça n'a pas changé. Ce qui change un petit peu, c'est le nombre. Ça a un peu baissé. C'est le nombre de personnes qui écrivent. Mais c'est dû à plein de choses. Hein. C'est dû d'une part au mouvement, au transfert. Hein. C'est des transferts toujours plus souvent. Et donc ça, c'est sûr qu'on a du mal à se rendre compte, mais quand tu es transféré à, je sais pas, à 300 ou à jusqu'à 1000 km de là, l'envolée, ça, assez rapidement, pour eux, ça signifie plus grand-chose. Il faut qu'ils repassent par la région parisienne pour renouer contact, sauf exception, encore une fois. Il y en a qui écrivent même de loin, mais c'est plus compliqué. Il y a plus ce fil-là de l'émission. Parce que l'émission, elle fait ça. L'émission... Tous les prisonniers le disent, ça fait au moins l'effet d'un petit parloir hebdomadaire. Hein, pour eux, c'est donc ça veut dire que ça fait un contact et ça laisse sensible cette relation-là.
Une grosse partie des courriers, en fait, souvent, c'est des réactions à l'émission précédente ou la semaine d'avant. Donc ça crée, ça crée une dynamique et puis... Oui, une dynamique en fait. Donc c'est vrai que pour les gens qui sont transférés, le fait de ne pas recevoir la radio et cette émission hebdomadaire, ça coupe un lien, quoi.
Est-ce qu'il y a de la rétention de courrier aussi?
Ouais. Enfin,
ça, c'est déjà arrivé.
Ah oui, bien sûr, c'est arrivé, ouais. Ah ouais, dans les deux sens. Mais bon, voilà, mais les lettres, elles sortent, elles finissent toujours par sortir. Hein. Donc quand quelqu'un veut envoyer un courrier, il trouve toujours une solution pour le faire parvenir. Ouais.
vous êtes sur une position anti-judiciaire et anti-carcérale. Est-ce que vous pouvez un peu développer
En fait, ce que c'est, parce que souvent quand on dit anti-carcéral, pour plein de gens,
c'est pas du tout.
C'est pas clair en fait. Bon, ça veut dire anti-carcéral contre la prison. Mais en gros, vous, votre position à vous par rapport à ça, ce que vous mettez derrière ce mot en fait, de anti-carcéral quoi. Enfin, c'est une question vague et longue, mais pour des gens qui seraient un peu novices dans le truc. Comment vous expliqueriez votre position en fait par rapport à la prison et puis au monde qui l'entoure quoi.
Moi, je suis arrivé à la radio en 2005 et j'ai découvert en fait une différence subtile entre ce qu'on dit abolitionniste et anticarcéral. Donc, que l'anticarcéral, c'est pas uniquement la destruction pure et simple de la prison, c'est que la prison comme elle est, elle s'inscrit dans un schéma de société, un modèle global de société, avec des rapports de force qui soient économiques ou familiaux ou n'importe quoi, et que si on travaille à éliminer ces rapports de force dans tous les domaines qui soient, ben on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de causes réelles entre guillemets de criminalité, et en gros la figure du monstre, et ben ça représente pas beaucoup de gens. Il y a d'autres sociétés qu'on dit plus primitives qui arrivent à le gérer collectivement. Et qu'en recréant du lien collectif à tous les niveaux de vie, et ben en fait on se rend compte où on peut penser que l'enfermement n'a plus aucune raison d'être. Et je crois que c'est comme ça que moi la dimension anticarcérale se pose là quoi. La prison comme le fruit de la société, et donc en éliminant cette prison, on transforme la société, ou en transformant la société, on en arrive à la logique d'éliminer la prison en fait. Ça s'inscrit dans un schéma global.
On vient tous, hein, sauf exception encore une fois, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup là. On vient tous on fait pas une émission de radio et un journal anticarcéral depuis 50 ans ou depuis 30 ans, mais on vient tous donc d'activités diverses qui sont sur un ensemble de luttes. Et qu'on toutes comme dénominateur commun d'être anticapitaliste, en tout cas de penser que d'agir dans ce sens-là, que le problème c'est un problème de société. Alors après donc quelques-uns d'entre nous ont choisi au début pour des raisons personnelles ce coup-là de choisir l'axe prison parce que c'est ce qui les avait touchés le plus récemment, et que c'est vrai que c'est un monde énorme quoi, c'est un monde si tu passes quelques mois et si t'es pas insensible et si tu fais un petit peu, si tu te renfermes pas, que tu fais un petit peu attention à tout ce qui s'y passe, enfin comment ça se passe, et ben tu te rends compte qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à réfléchir. Mais ça, c'est comme des ouvriers qui à un moment une usine se posent des problèmes et réfléchissent ensemble à cette façon là donc forcément nous c'est juste on va dire, c'est un biais, la prison pour nous c'est un biais de critique du système qui la génère, c'est sûr. Et ça, c'est peut-être ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres groupes, on va dire, un peu plus institutionnels que nous, de critiques du système carcéral, qui pourraient penser qu'on pourrait transformer la prison dans ce monde-là. Nous, on pense que non, pas du tout. Il faut transformer ce monde pour que la prison n'existe plus du tout. Parce que la prison, c'est évidemment comme le tabac, l'alcool, etc. C'est un monopole d'État. Et c'est l'État qui s'occupe de gérer tous les problèmes entre les personnes. Et ça veut dire donc qu'il les gère évidemment à son bénéfice et avec son idéologie, avec ses forces de l'ordre. Enfin, et puis toute sa magistrature, etc. Ce qui fait que c'est réellement un des outils, il y en a plein d'autres, un des outils de consolidation, de sauvegarde du système capitaliste. Et donc c'est ça la petite différence pour nous qu'il y aurait, elle tient à ça, c'est que on est autant anticapitaliste qu'anticarcéral. Pour nous, ça veut dire la même chose. Il n'y a pas de différence entre ces deux termes.
Parce que quand on regarde là la nouvelle vague de militants qui s'offusquent d'être traités comme des criminels, etc., etc., en fait, on peut penser dès le départ que, comme je disais tout à l'heure, n'importe quelle personne qui refuse pas l'affrontement, mais qui refuse de rentrer dans ce rapport de force qui est imposé par l'État, il y a une grande chance que son combat finisse par la casse-prison, quoi. Donc toute personne qui s'oppose à cette structure, à ce modèle de société, et qui s'y affronte, hein, pas justement le nier, mais qui s'y affronte, en fait, on peut penser qu'il finira en prison. Donc en s'attaquant à la prison, c'est en gros, c'est s'attaquer au fonctionnement global, général de la société actuelle.
D'ailleurs, enfin, c'était juste une remarque, mais ça, à ce propos, il y avait, vous avez parlé des ouvriers de Continental, en fait, à l'antenne de l'Envolée.
Ah, on a fait plus que ça, en fait, avec les Contis en train de se mettre en place. Mais on avait fait ça à l'époque avec Metal Europe. Ouais. Et donc, enfin, voilà, donc c'est, Metal Europe, c'est une boîte dans le nord de la France. Donc qui a été fermé, où tout le monde a été licencié de façon relativement sauvage, et ils sont mis en mouvement, hein, et avec beaucoup de bruit, enfin ça, on a beaucoup parlé de ça parce qu'ils étaient déterminés, et j'avais entendu un jour comme ça, je sais plus sur quelle radio, une interview de l'un d'entre eux qui disait ben moi en tout cas je ne deviendrai pas le maton de mes enfants. Et ils disaient ça parce que ça leur avait été proposé de devenir gardien, surveillant, maton de la prison qui allait être construite, qui va être construite à côté de l'usine, hein, à Lens-les-Courcelles. Et qui en plus, qui est une des nouvelles prisons prévues, ultra sécurisée. Et donc on leur avait dit, voilà, il y a une partie d'entre vous qui pourra retrouver du boulot, une petite formation vite fait, et tu vois, combien j'ai de doigts, et bah, j'ai choisi la clé. Et voilà, et donc ils avaient répondu ça. C'est une phrase qui nous avait plu, donc on était allés les voir, c'était pas loin. Et en fait, assez rapidement, le contact s'est bien noué. C'est bien fabriqué, et à tel point qu'ils nous ont proposé une fois, chose qui n'aurait jamais pu se passer si eux, ils n'avaient pas été en mouvement, une soirée entière consacrée à la prison. Donc on est arrivé avec des petits films, etc., pour fabriquer un débat, et ils ont tous, la grande majorité, ils ont chuté, ils ont dit, putain, les gens qui sont enfermés, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous, et ils les posent de la même façon que nous. Forcément, c'est des gens qui sont pas très très, c'est pas, ce sont des gens qui sont pas très différents de nous, hein, c'est pas du tout des gens comme ils ont pu en entendre parler jusque là, irrécupérables, monstrueux, enfin assassins, là, avec le couteau entre les dents.
Ouais, l'image du prisonnier, ouais, dans l'imaginaire collectif. Ouais.
Et donc ça fait ça. On a réussi à faire ce petit lien-là, effectivement, à ce moment-là. Et là, bon, avec les Continentales, hein, on a le même projet, on les a vus une ou deux fois. Et ça leur plaît aussi, d'autant plus à eux. Que, bah, ils ont été assignés en justice là, qu'ils ont pris, des peines, ouais. Et qu'ils refusent ces peines, ils ont bien raison, et ils sont pas tombés dans le piège, en tout cas on l'a pas entendu médiatiquement, qui consiste la plupart du temps à dire effectivement nous notre révolte elle est légitime, tandis que tous les mômes des cités, etc., ou les petits voleurs, ou les petits trafiquants, etc., eux, il n'y a rien de légitime, c'est normal de les enfermer. Ouais. Ils n'ont pas eu ce discours-là. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc ça fait un terrain quand même favorable. Parce que c'est vrai que des fois, il faut se farcir la rencontre avec ce genre de conneries, là, de dire il y a les bons, puis il y a les mauvais. On est les bons.
Des gentils.
Et ça arrive souvent, et ça arrive dans des milieux finalement relativement proches, hein, qu'on connaît bien. On l'a déjà vu, on s'est déjà confronté à ça, même sur des histoires de procès pour refus d'ADN de militants, où ça serait légitime que les militants y refusent de donner leur ADN. En revanche, qu'on prenne à tous les prisonniers, ça pose aucun problème, parce qu'il y a forcément une bonne raison pour le faire. Okay.
the train a-comin', it's rollin' round a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Et dernièrement, le site internet Banque Publique qui relaie aussi une parole sur la prison, etc., et qui relaie des témoignages de détenus sur aussi ce qui se passait à l'intérieur, a été attaqué en diffamation par rapport à l'histoire au cas de François Corbert, qui justement dénonce le racket de l'administration pénitentiaire par rapport à la cantine, en fait. Et il a voulu faire de son histoire, enfin prendre une tribune publique et dénoncer ce qui se passe. Donc ce site a été attaqué en diffamation, et vous aussi, vous avez eu quelques histoires avec la justice par rapport à des propos tenus dans le journal.
Eh ben, ça c'est en fait pour moi ça a été le moment de rencontre et d'arriver à l'envolée. Effectivement, on s'était retrouvé suite aux émeutes de 2005 dans un truc qui s'appelait l'Assemblée de Montreuil et Olivier Nadia qui était présent là-bas. On passait un film qui était à l'époque sur la mort d'Éric Blaise qui est mort au Mitard au bout de 2 jours d'emprisonnement. Et après, on a informé l'ensemble de l'Assemblée qu'il y aurait un procès de l'envolée à Beauvais, parce que l'envolée, effectivement, était attaqué en diffamation par Danet, pour avoir relayé, effectivement, des...
Alors, Danet.
C'est l'ancien... C'est Danet, c'est l'ancien, maintenant il est à la retraite, si vous pouvez... Enfin bon... c'est l'ancien directeur d'une des plus horribles, elles sont toutes horribles, mais ça est vraiment très horrible, Centrale de France Clairvaux, et il est resté là des années. C'est un mec qui était en 74 à simple maton à Fleury-Mérogis, et dont on sait, on sait parfaitement qu'il a participé à l'assassinat d'un jeune homme qui s'appelait Mirval, qui est donc le mitard à Fleury, il est au troisième étage au quatrième étage du bâtiment Détroit. Donc ils l'ont conduit au mitard, ce jeune Mirval, à quelques matons. En bas de l'ascenseur, il était vivant. Quand il est arrivé au quatrième étage, il était mort, étranglé. Donc la famille Mirval a mené un combat d'arrache-pied pour savoir ce qui s'était passé, pour contre-attaquer avec les armes dont elle disposait. Mais ça avait fait tout un barouf à l'époque, c'est un moment où les intellos ils étaient quand même un peu plus là.
C'était dans quelles années ça?
74.
74, ouais, c'était.
Il y avait, ouais. Il y avait donc il y avait là, il y avait, je sais pas moi, Foucault, Vidal-Naquet, ouais, enfin, des gens qui étaient capables de relayer le truc, en tout cas, avec un peu plus de boucan qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus un intello pour s'intéresser à des choses, à ces choses-là. Et donc Danet était un des principaux enfin, il n'a jamais été mis en examen, mis à part ça, mais enfin, on sait qu'il y a participé. Voilà. Et comme récompense, l'administration pénitentiaire lui a donné le plus haut grade de, qui existe dans l'administration pénitentiaire, celui de directeur hors cadre. Et voilà, ça a été sa grosse punition pour avoir fait ça. D'accord. Et nous, on avait republié dans un numéro spécial sur Clairvaux un extrait de la préface de Foucault, dans lequel il est mis en accusation. Et alors qu'à l'époque, ils n'avaient jamais osé attaquer Foucault, là, ce coup-là, ils ont attaqué le journal pour avoir reproduit ces mêmes lignes. On n'a pas écrit une ligne là. Il y avait cette plainte-là de Danet qui s'est vengé de ce qui est de son passage en 74. Et puis il y avait une série de cinq plaintes sur différents courriers envoyés dans différents numéros du journal par des prisonniers. Des prisonniers, il n'y avait pas de prisonniers là. Voilà. Et c'était à chaque fois des paroles de prisonniers qui étaient incriminés. Alors que nous, dans nos articles, on peut écrire la même chose avec autant de virulence. Nous, on n'a jamais été attaqué pour nos éditos ou pour quoi que ce soit. C'est là ce qui était vraiment incriminé, c'était le fait que des prisonniers se permettent d'écrire et de dénoncer
C'était quand même vous qui étiez attaqué ou
c'est la directrice de publication. Non, les prisonniers ne peuvent pas l'attaquer.
D'accord.
C'est là c'est un truc de presse. Donc c'est dans l'ordre, c'est la directrice ou le directeur de publication qui est attaqué. Ensuite, s'il le trouve pas, c'est l'imprimeur.
D'accord.
Et après, ils se mettent à chercher un peu plus près qui participe au caucase. Donc, ils ont tout fait là. Ils ont,
ce qui était étonnant là, moi, je trouve, quand je suis arrivé à Beauvais, donc, parce que vous l'avez réussi à faire comparaître, faire extraire des longues peines, dont les courriers étaient cités. Et en fait,
en tant que témoin,
et ces personnes avaient bien préparé leur dossier, c'était pas tellement compliqué, en fait, avaient repris toutes les parutions et tous journaux officiels qui traite de la prison et qui citait les mêmes courriers dans les mêmes termes et montrait qu'en fait il n'y avait aucune attaque contre tous ces médias autorisés et libres et qu'en fait l'envolé, de par son indépendance financière ou autre, en fait c'était un média qui devait être éliminé parce que c'est un média qui retransmettait directement la parole libre de tous les prisonniers et que c'était cet aspect-là qui était pour eux inacceptable, quoi. Qu'il n'y ait aucun moyen de contrôle sur un média qui ne se fait pas le porte-parole, mais qui juste offre aux prisonniers un espace d'expression totalement libre.
Et donc voilà, et donc ce procès-là, il était super bien, parce que ça n'a pas été quasiment un procès, ça a juste laissé la parole à ces quatre prisonniers qui étaient là, qui l'ont pris allègrement, ça a duré pendant toute une après-midi, quoi, où ils ont pu jacter autant de temps qu'ils voulaient. On a eu la chance, entre guillemets, de tomber sur un président correctionnel pas le plus facho, et donc qui leur a laissé la parole, d'une part, d'autre part, qui les a laissés ensemble, alors qu'il y avait parmi eux deux DPS. Non, normalement, c'est
GIGN surveillé,
c'est GIGN et compagnie, c'est pareil. Là, ils
tous
sont
dans le même box.
Tous dans le même box, voilà, à jacter ensemble et à dire ce qu'ils avaient à dire. Donc, on va dire. Une après-midi plutôt riche, quoi. Une salle bien remplie de gens qui avaient fait le déplacement. Bon, ça n'a pas empêché le fait qu'on soit condamné. Hein. À part ça, ce président-là, il a dit, comme condamnation, nous avait condamné à des amendes avec sursis, en disant que les choses qu'avaient dites les prisonniers étaient justes, mais étaient mal exprimées. Donc, fallait qu'ils revoient leur copie quant au style.
Une réalité avec des termes maladroits.
Problème de style. On a fait appel. Et en appel, on s'est fait massacrer. Puisque là, du coup, c'était pas le même président de correctionnel. Il a refusé l'extraction, il a refusé que des prisonniers puissent être cités comme témoins. Il a dit on n'est pas au cirque ici. Mmh. Il s'est complètement foutu du fait que c'est un peu en plein mois d'août pendant les vacances scolaires et que notre avocat n'était pas là, donc n'avait pas pu venir, avait prévenu hein, évidemment, etc. Mais il a dit on n'a pas besoin d'avocat. Et l'affaire s'est réglée en 5 minutes. Il a remis une somme d'argent plus forte et ce coup-là sans sursis. Donc on a fini par être condamné à quelque chose comme 5 500 euros d'amende pour cette histoire-là. Alors le banc public chez Provisançon, mais le Corbert, lui, son combat, il est beaucoup plus juridique que celui des autres qui étaient venus comme témoin au procès de l'envolée. Et donc ça fait une là aussi c'est une grosse différence on va dire. C'est que nous, de notre côté, on n'a pas comme initiative de notre part de choisir le terrain juridique comme bagarre. Maintenant, si des prisonniers, si ça permet à des prisonniers de se regrouper, de fabriquer un rapport de force avec ça, etc., et de défendre ce qu'ils ont à défendre, c'est pas nous qui allons leur dire ah non, ça faut pas le faire, parce que, etc., parce que le droit, c'est celui des mêmes gens qui vous enferment, donc ils en font ce qu'ils en veulent, etc. Lui, mais il y a toujours eu comme ça des gens qui pensent qu'on avance avec le droit. Nous on n'y croit pas du tout. Corbert, là, en même temps, il fait un boulot assez énorme. Hein. Mm-hmm. Plus que sur les cantines, c'est sur la télé, son combat, là. C'est en prison, la télé, elle se loue par mois. Elle se loue super cher. Elle se loue, à l'époque, c'était en France, c'était 250 francs par mois. Donc c'est
relativement conséquent pour quelqu'un qui
est en prison. Énorme. C'est énorme. Ouais. Quand on va parler en euros, donc ça fait 40 euros pour la télé. Et quand t'as, pour des gens, ça veut dire qu'ils ont déjà un peu d'argent, quand t'as 150 euros par mois en prison, t'es bien. Enfin, je veux dire, déjà, t'es pas à la rue, quoi. Mm. Mais il y a plein de gens qui n'ont rien du tout. Hein. Et ce racket-là, donc multiplié par le nombre de mois, c'est des pauvres télés, hein, c'est des pauvres télés, et qui à l'achat doivent valoir, je sais pas moi, 100 euros, ça allait 150 euros, donc en 3 mois, l'affaire est réglée, normalement elle est achetée. Mais ouais. Et là, donc la bagarre de Corbert, c'est que les prisonniers puissent s'acheter eux-mêmes leur poste de télé. Voilà. Donc il a réussi un premier coup pour les centrales. Et maintenant, il veut s'attaquer à la même chose pour les maisons d'arrêt. Donc voilà, il essaye de créer une jurisprudence avec ça. Nous, on n'a rien. On a des choses à dire là-dessus, mais sur son combat, on le fait pas chier. Même s'il a besoin d'un coup de main, on lui donnera le coup de main. Mmh. Ça c'est pas. Si on veut faire des jonctions, etc., bien sûr qu'on le fera. Mais quand même, nous de notre côté, ce qu'on pense, c'est que ça, c'est un drôle de combat, d'une part en soi. Se
battre pour la télé, c'est.
Et ensuite, en plus, se battre pour la télé quand on sait que la télé, c'est. C'est vraiment de la vie de tous ceux qui ont vécu le passage de avant à après la télé, qui est pas si vieux, hein, c'est 85, et ben 1985, et ben là les choses sont vraiment transformées, c'est-à-dire ça a vraiment aidé
c'est à l'opium de la prison,
vraiment, mais comme dehors, hein, c'est-à-dire c'est la même, hein, au lieu d'aller rencontrer du monde, de sortir, de discuter, de faire quelque chose, d'apprendre, enfin tu te tapes une pauvre merde à la téloche tous les jours. Et puis,
cette fois-ci, l'expérimentation était dans l'autre sens, quoi. On a d'abord expérimenté à l'extérieur, et après on l'a fait rentrer pour voir que ça pacifie pas mal de rapports et que ça individualise
toutes les... Que le surveillant était pour son introduction en prison.
Et d'ailleurs, il n'y a pas... Hein, en prison, il y a des gens qui ne cantinent pas à la télé, et ces gens-là, c'est soit les vieux tolards, ceux qui ont été habitués à ne pas vivre avec la télé et qui en veulent surtout pas, qui la craignent. Et puis ceux qui ont autre chose à foutre qu'à regarder la télé. Et généralement, ceux-là, c'est ceux qui se battent un petit peu, qui essayent qui préfèrent passer une heure à écrire un texte pour ça, ou aller discuter au barreau avec un tel pour se mettre d'accord sur telle chose. Mais tout vaut mieux que la télévision, ça c'est sûr. et surtout à l'intérieur. Il y a des, c'est vraiment des dégâts incommensurables. Il y a des gens, ils vivent avec la télé, mais comme dehors, je pense que c'est la même chose. 24 heures sur 24 allumées, comme une espèce de présence. Et ils défendent comme ça, ça me fait une présence, etc. Il y a, donc il y a une angoisse qui se crée en même temps de, dès qu'il y a absence de cette télé. Ça peut rendre des gens complètement fous, le fait de plus avoir la télé. J'ai vu des bagarres comme ça. Entre l'Oxy, ce qu'on appelle l'Oxytélé, c'est celui qui distribue les télés, c'est un espèce de dieu tout puissant là, c'est un prisonnier hein, à l'intérieur. Lui il arrive toujours à magouiller à droite, à gauche, il peut récupérer une télé pour la mettre, etc. Et puis d'autres gens qui avaient plus la thune pour se la payer, donc ça fait des angoisses, des vraies angoisses. Donc après ça veut dire ça s'ajoute avec aux médicaments, et là l'affaire elle est bouclée. Donc voilà, on a fait un petit chemin là, mais donc ouais, la diffame, ce qui déplaît là dans le cas Corbert à l'administration pénitentiaire, c'est toujours la même chose, c'est le fait que un prisonnier fraîchement sorti, ça fait très peu de temps qu'il est sorti, prennent la parole pour dénoncer des choses. Ça c'est un dénominateur commun, c'est toujours vrai. Il n'accepte pas et utilise tous les moyens possibles pour empêcher cette parole directe. Ils préfèrent avoir affaire à des associations qu'ils aident, qu'ils financent. Il y a des associations qui ont pignon sur rue, on va pas donner de nom, c'est pas la peine, qui ont des subventions, et chaque fois qu'il y a des subventions, c'est un peu, elles viennent de l'État. Et elles viennent des mêmes ministères qu'en ferme, quoi. Donc,
comme le syndicat qu'on finit.
Ouais, exactement pareil. Ouais.
Je me rappelle quand j'étais allé à Beauvais, là, un des éléments qui m'a, au-delà de ce que racontaient les longues peines sur leurs conditions de vie au quotidien, enfin de vie entre guillemets, quoi, ce qui avait été, ça c'était déjà assez violent comme discours. Et ce qui était encore plus grave, c'était l'attitude des avocats des parties civiles qui découvraient tout d'un coup que ces gens-là étaient intelligents aussi, qu'ils savaient bien s'exprimer, quoi. Donc là, ça fait quand même un peu mal. Et là, par exemple, c'est vrai qu'en faisant lire des courriers, moi, je vois à droite à gauche, il y a deux, trois personnes qui, comme moi, n'étaient pas forcément impliquées sur le monde carcéral, en voyant l'écriture et la réalité et la manière dont ils décrivent leurs conditions et leur positionnement, et le pourquoi leur positionnement, tout ce trajet intellectuel. C'est vrai qu'on peut qu'abonder dans leur sens, et c'est le fait de transcrire cette parole brute qui est dangereuse pour tous les parties prenantes du monde carcéral, parce que la parole brute, quand elle est lue à qui que ce soit, bah en fait elle touche, quoi. Sans filtre.
Ouais, surtout qu'il y a tout un discours de la prison à visage humain, en fait, tout ce truc de qu'on peut lire en fait au développement durable, tous ces termes genre la prison transparente, etc., et que encore les grands absents, c'est les premiers concernés. Donc
Là on se rend compte effectivement dans la construction des nouvelles prisons là, comme Corbas, tout ça, qui était faite par l'argument officiel d'offrir du confort et de la sécurité aux prisonniers, elle n'a pas fallu longtemps pour que ça pète et qu'il y ait des mouvements, parce qu'au bout du compte, les prisonniers se retrouvent isolés en permanence, en isolement en permanence. Les expérimentations qui ont été faites dans les années 70, elles sont maintenant appliquées dans l'architecture même de ces prisons, où ils vont jusqu'à, comme ils font à l'extérieur, gérer les flux des personnes par des passes navigo, des conneries comme ça. Là, ils arrivent à gérer les flux de prisonniers pour que personne ne se rencontre. Donc même plus ils ont un contact avec le maton qui est déjà pas un contact humain très intéressant, mais là ça passe par des interphones, par des boutons poussoirs, de n'importe quoi, et les personnes sont à l'isolement en permanence.
La prison du futur.
La prison du futur, ouais. Et en plus de ça, ils ont suivi aussi dans ce sens-là le monde, hein. C'est-à-dire que chez les matons, surtout chez les syndicats de matons, tous confondus, hein, FO, CGT l'UFAP, ils forment des mecs et des nanas spécialisés dans la communication. C'est-à-dire des gens qui savent exactement parler pour ne rien dire.
Et quand on parlait donc, de soutien aux prisonniers en lutte, pas de distinction de peine.
De pourquoi ils sont en prison ?
Non, oui, parce qu'il y a souvent genre, ouais, mais lui il a droit violé, commun, lui il a fait ci, alors. Lui il a fait ça.
Ouais. Puis il y a aussi ce truc, justement, je voyais récemment qu'il y a une grande grève de la faim mondiale de tous les prisonniers, entre guillemets anarchistes, lancés par quelques. Et du coup, enfin, bon, ça rentre un peu dans ta question. Quoi.
Ah non, mais non, ça on sait. Alors, pour ce qui est de la différence entre prisonniers dits politiques et prisonniers dits, dits sociaux ou droit commun. Nous c'est pas on rentre absolument pas là-dedans. C'est une vraie connerie du début jusqu'à la fin. Évidemment que les problèmes de l'enfermement sont des problèmes politiques. Hein. C'est pas parce qu'effectivement on n'écrit pas un manifeste et qu'on n'est pas constitué en cellule ou en équipe, etc. Avec des revendications de différents ordres, qu'on n'est pas politique. Voler une mobilette, il y a une raison pour laquelle on vole une mobilette. Et donc évidemment, c'est pas un acte conscient comme on l'entend, mais c'est un acte conscient dans ce qu'il fabrique, de rupture avec les règles de la société, quoi.
Je crois que la lecture des courriers, même sur les prisonniers, même s'ils ne sont pas affiliés ou ne se disent pas machin, tous les courriers, en fait, ils ont un fond politique parce qu'il y a un vrai positionnement, parce que la réalité, ils la connaissent. Et ils savent ce que c'est. Même s'ils ne s'inscrivent pas dans une politique, l'acte en lui-même, il est politique.
Alors, par exemple, quand on a mis des affiches en ville à Saint-Étienne, dans le cadre de la campagne contre les longues peines et les quartiers d'isolement, sur certaines affiches avait été écrit « Ouais, mais qu'est-ce que vous faites des violeurs, des assassins, etc. » Donc vu qu'on parlait de différence entre...
Les violeurs, on les met dans les crèches, c'est leur place. Et les assassins dans les maisons de retraite. Tout le monde s'amuse.
C'est vrai que c'est souvent la critique
Ouais, après ça amènera, j'ai pas la solution, je prétends pas avoir la solution claire. Ce qui est clair, c'est que cette solution-là, c'est pas la bonne de toute façon. Alors après, on peut lire peut-être 40 000 études le violeur violé, l'œuf ou la poule, le viol et l'assassinat, de ce qu'on disait au départ. En fait, je pense que si on fonctionne en dehors de ces rapports de force patriarcales ou économiques ou n'importe quoi, je pense qu'on fera disparaître une grosse partie. Et après, le reste, pour le gérer. Ça, c'est des exemples, effectivement, parce que c'est la personne qui est devant la télé, et puis c'est les choses qui te font le plus peur parce que ça te touche ou ça touche ton voisin, ta voisine. Mais si on réfléchit un peu plus sur le viol et l'assassinat, pas comme des causes, mais comme des conséquences, comme construites et produites par un modèle social, si on transforme cette société-là, on va résoudre le problème totalement, quoi.
Mais on le sait de toute façon, et tout le monde le sait. Et plus de, je sais pas, c'est qu'on les chiffres, mais enfin, on va dire beaucoup plus des trois quarts, beaucoup plus des trois quarts des histoires de viol, c'est des histoires d'autorité, c'est des histoires de famille, c'est des histoires d'institut, de curé, il y a toujours un rapport d'autorité là-dedans. C'est pas du tout le violeur rôdeur qui passe là et qui viole en série de 10. Après il va se coucher, il recommence le lendemain, enfin, ça sauf exception, ça existe toujours, sauf exception. C'est la façon dont c'est présenté, surtout la séparation comme ça de la vision de ce problème là de qui est donné par les médias, qui est donné aussi par par plein de gens, qui est relayé par plein de gens, parce que là, je fais une petite digression, parce que c'est bien d'avoir toujours quelqu'un de pire que soi, hein. Moi je me rappelle au placard, j'ai vu un mec. Il avait brûlé, brûlé vif un vigile de banque. Bon, moi je dis pour 10 000 euros quoi. Moi personnellement je trouve que c'est vraiment plus que limite. La vie de quelqu'un qui soit vigile de n'importe quoi, Sauf si c'est un ennemi réel, hein, mais là c'est pas le cas, c'est un vigile, c'est pas un ami, d'accord, évidemment, mais c'est pas non plus ton premier ennemi, quoi. Mmh. Et ben, aller le brûler, ça me paraît un peu exagéré,
excessif.
Et lui disait, ouais, mais t'as vu tous les salauds là, les violeurs, etc., machin, il se sentait comme ça indemne de tout problème à se poser, bien sûr, on cherche toujours pire. Donc ça, c'est donc à l'intérieur, c'est pareil, c'est véhiculé de la même façon, mais jamais le problème il est posé de la façon dont il doit se poser, à la fois du point de vue de ce que représente réellement le viol dans notre société. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et à la fois, après aussi, du point de vue même de cas précis de violeurs, où nous, on a eu quelques courriers de récits, qui n'étaient pas des courriers de gens qui s'excusaient ou n'importe quoi, qui étaient des courriers de gens qui avaient analysé leur, ce qui s'était passé, et qui racontaient leur enfance, qui racontaient tout ça, qui racontaient l'espèce d'enfermement dans lequel il se trouvait, il sortirait même peut-être plus jamais, hein. D'abord l'enfermement dehors, pris dans des étaux familiaux complètement délirants, on se fait violer par le grand frère, par l'oncle, je sais pas trop quoi. Et voilà, donc après le mec il a plus que ça comme réalité, hein. Quand t'es à cet âge là c'est là où la sexualité elle commence à normalement à s'épanouir. Si son épanouissement c'est ça, c'est sûr que si tu la vois comme ça, et ben tu reproduis ce qu'on t'a appris, c'est comme n'importe qui. Bon, donc d'un côté comme d'un autre, c'est dans le problème non. Nous, la seule différence qu'on fait, hein, c'est entre ceux qui se battent et ceux qui se battent pas. On a très très peu, on n'a pas de relation avec des gens qui sont là en prison, qui font leur temps. Il y a pas de jugement, hein, mais c'est pas comme c'est pas notre histoire, c'est pas notre combat. Nous, ce qu'on cherche, et quoi, évidemment, du coup, quoi qu'ils aient fait, ouais. Et le tri se fait, mis à part ça, on ne reçoit pas de l'aide de facho, on reçoit pas, le tri se fait tranquillement, ce qu'on cherche, hein, c'est sûr.
Par lui-même, quoi. Moi, sinon, vous êtes contre la prison, mais vous proposez quoi?
Vous répondez quoi?
Tu fais en antenne.
Quand on nous pose cette question, on répond pas. Ah non, j'ai pas obligé de répondre à tout. Non, on répond pas. On dit qu'on peut pas répondre. La réponse nous appartient pas, en tout cas. Nous, après, on a des positions particulières, chacun. Moi, par exemple, porter plainte, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que je ferai jamais de ma vie. Je refuse, toi, que dès que je peux décrire ce que c'est réellement que la justice et la prison, je le fais. Enfin, bon, des choses comme ça, mais on porte pas une solution tout seul. La solution, elle est collective et largement collective. Sinon, c'est pas une solution. Sinon, on prend le pouvoir demain.
On tue tous
les ennemis.
C'est fini. C'est réglé.
Ça serait bizarre.
Bon, bah,
merci à vous.
Ouais, merci.
De rien, on va bien la voir.
Terminé, on rentre.
Je te charge d'un vrai boulot. À l'atelier de menuiserie, c'est un boulot payé.
Combien?
25 cents de l'heure.
Y'a pas à dire, le crime ça paye.
Oui, et ça occupe. À tout à l'heure.
Voilà, donc vous êtes toujours sur le 895 de Radio Dio, à l'écoute de l'émission Papillon. C'était donc l'interview de l'Envolée, voilà. Donc on va préciser que vous pouvez leur écrire ou pour vous procurer le journal ou pour leur écrire si vous êtes détenu, si vous avez des choses à leur dire. Donc leur adresse, je la rappelle, c'est donc l'Envolée, 43 rue de Stalingrad, 93 100 Montreuil. Et voilà, pour tous ceux qui sont...
Et le journal est gratuit aussi pour les prisonniers.
Le journal est gratuit pour les prisonniers et prisonnières. Voilà. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés, qui sont à l'extérieur et qui ont Internet,
Vous pouvez écouter leur émission de radio tous les vendredis de 19h à 20h30 sur le site qui est www.rfpp.net. Voilà, rfpp.net. Donc voilà, donc on va conclure cette émission par quelques petites choses. On va rappeler quelques petites adresses, etc.
Ah oui, alors d'abord c'est donc à moi.
Oui.
On fait juste deux choses. On a eu récemment des questions sur la réglementation, plus ou moins. Enfin, comment se fait-il que l'AP prend de la thune en fait sur les mandats? Donc les mandats, c'est l'argent qu'on peut envoyer à des prisonniers. Et en fait, il y a toute une réglementation qui fait que l'administration en prend un peu. Mais normalement, si t'en reçois une petite quantité, on t'en prend pas. Puis des fois, en fait, on t'en prend. Et bref, les prisonniers ils comprennent pas trop comment ça marche ou s'ils se font avoir. Et la deuxième chose, qui est autre chose, c'est sur en fait la manière dont sont fichés les prisonniers. Donc ils sont, bah, il y a des gros dossiers sur eux, des fiches qui remontent jusqu'à il y a longtemps sur comment
des fichiers un peu sauvages, quoi.
Voilà, en fait, comment ils ont été fichés par les RG et tout. Et ça, pareil, on s'est demandé bah comment ça marche ce truc, parce que ça affecte quand même pas mal la manière dont on est traité en prison ensuite. Et voilà. Donc ces questions, on s'est dit, bah, on va essayer de faire un peu des recherches dessus et de les traiter. Et dans une prochaine émission, la prochaine j'espère, en parler un peu plus avec les infos qu'on aura recueillies. Et donc ce que je voulais dire à ce sujet, bah, déjà si vous avez des choses à dire sur les mandats ou sur ces fichiers, et bah, n'hésitez pas à nous les raconter. Et puis si on dit des conneries ou des choses trop théoriques, parce que des fois quand tu cherches les règlements, et ben la réalité de ce qui se passe concrètement, c'est pas la même, donc c'est bien de nous le raconter. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, des fois des questions un peu d'ordre pratico-juridique, et que vous, de là où vous êtes, vous pouvez pas forcément faire les recherches, et ben n'hésitez pas à nous demander, nous on sera un plaisir de chercher les infos et puis de les faire circuler à l'antenne ou par courrier. Donc comme ça, j'en profite pour dire notre adresse quand même, ouais. C'est le moment. Donc je rappelle notre adresse, c'est donc une adresse email, c'est émissionpapillon tout attaché @riseup.net. Donc riseup c'est riseup.net. Voilà, et surtout l'adresse courrier, c'est émissionpapillon chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42 022 Saint-Étienne Cedex 1. Voilà, donc je le répète, émission Papillon chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42 022 Saint-Étienne Cedex 1.
Et pour la rediffusion?
Ah bah ça, c'était pas à moi de le dire.
Ouais, ouais, mais on va peut-être les rappeler à la fin, là. Ouais, il y a peut-être d'autres choses à dire avant.
Quel chaos.
Ok, ouais, là c'est le chaos. Sinon, juste pour vous tenir informé de la situation de Sylvie Picciotti, donc, qui était mise en examen, enfin là, qui est incarcérée à la prison de Fleury-Mérogis, c'était dans l'histoire de l'évasion de Christophe Kider et d'Omar Topelhadj. Et donc elle est là, il y a une enquête, machin, donc pour complicité d'évasion, tout ça. Et donc là, elle se tape un peu un tour de France des prisons. Donc elle était à La Talo, ensuite elle était à Valence, et là maintenant elle est à Fleury. Et donc, bah, si vous voulez écrire pour lui apporter votre soutien, parce qu'elle en a bien besoin, donc je vais vous donner sa nouvelle adresse. Donc Picciotti, P-I-C-I-O-2-T-I, Sylvie, maison d'arrêt pour femmes. Donc son numéro d'écrou, c'est le 377-472, 7 avenue des Peupliers, 91700 Fleury-Mérogis. Numéro d'écrou, donc je répète, 377-472, 7 avenue des Peupliers, 91700 Fleury-Mérogis.
Et voilà, et tant que vous avez votre stylo dans la main, on va continuer dans les adresses. Donc je voulais rappeler l'adresse de Lauren Chaguimon, donc qui est en grève de la faim au centre de détention à Roanne, pour réclamer la restitution de certains permis de visite et le rapprochement avec d'autres prisonniers basques. Donc son adresse, si vous voulez la soutenir un peu, lui faire un petit coucou, lui envoyer des cartes postales magnifiques de Saint-Étienne, c'est Laurentia Guimon, donc L-O-R-E-N-T-X-A, Guimon, G-U-I-M-O-N, voilà, centre de détention. écrou numéro 488F, rue Georges Mandel, donc Mandel c'est M-A-N-D-E-L, boîte postale 10008, 42-311, Roanne-Sedex.
Voilà, et on rappelle au passage que logiquement, dans l'émission, la prochaine émission qui sera le dimanche 7 mars normalement, il y aura un petit montage avec des choses plus précises un peu sur ses conditions, sur, voilà, sur sa lutte, etc. Quoi. Mm. Autre chose ?
Ouais, bah, la rediff, donc ouais, cette émission. Payoub, ouais. Toi, t'es carré pour les rediffs.
Alors, cette émission, donc là, elle était en direct. Elle sera rediffusée sur la même antenne, donc sur Radio Audio, le vendredi 12 à 10h30, de 10h30 à midi. Elle sera également rediffusée sur Radio Canu, donc sur Lyon, le mardi 16 à 20h, normalement. Donc voilà.
Sinon, bah...
102 Canus, Radio Canu, 102.2, ou sur Internet, voilà, vous cherchez Radio Canu et vous trouverez.
Et sinon, là, c'est la minute message, donc bah, pour Nabil, et bah, écoute, j'espère que ça va. Voilà, et puis bah, plein de grosses bises.
Pareil.
Et puis bah, à tous les autres, courage, et puis, voilà, ouais. Et restez pas seuls et isolés dans votre coin.
Un petit coucou à tous les détenus de la maison d'arrêt de la Talaudière, à tous ceux qui nous écoutent de l'extérieur aussi.
Et Alex,
à nos
Laetitia,
camarades qui ne sont
Olga,
pas là. Et puis voilà, quelque chose à rajouter.
Non, bonne soirée, non. Bon courage.
Et bah,
bonne soirée.
Bonne
ciao,
soirée
à la
vous.
Prochaine.
Et à plus. Et le CD du générique de fin est toujours aussi bien. Donc, on va vous laisser avec la radio, les bandes.